téléspectateurs,
bonjour. 9h41, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
31 jours de grève, 90 départs à peu près. Faut dire, la seule proposition faite par la direction dès le début du conflit, c'était justement des conditions pour quitter la chaîne et vite. Beaucoup d'ITélé sont partis, ils ne se sont manifestement pas quittés. Ils lancent leurs propres médias. Où, quand, comment, pourquoi? Révélation au fur et à mesure de la journée et dès maintenant dans l'instant M. Ma première, présenter les journaux, puis la matinale du week-end sur ITélé. Mon second était le spécialiste des questions internationales. Mon tout, c'est Sonia Chironi et Olivier Ravanello, invité de l'Instant M. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Sonia.
À vous tous aussi, bonjour. Et à vous qui nous regardez en direct sur Facebook ce matin, vos réactions, vos questions sont les bienvenues.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Merci d'être là, merci d'être avec nous. Est-ce que je peux vous faire un bisou? Merci d'être là, merci. Comment vous appelez?
Tania.
Vous avez un sourire magnifique.
Merci.
Je vous le dis, vraiment.
Non, magnifique.
Elles sont très très bonnes en plus.
Oui, c'est vrai.
Oui, ça me change des chroniqueurs.
Cyril Hanouna joue avec son public. Vendredi soir, avec une jeune femme voilée qu'il fait descendre des gradins sur la scène. Déchaînement furieux. Furieux des réseaux sociaux. L'animateur agonie d'injures et même comparé à Daesh. Sa réponse a été simple, je cite « Touche pas à mon poste, est ouvert à tous, sauf aux cons ». On peut reprocher beaucoup à Cyril Hanouna des facilités, des dérives inexcusable. Mais par ailleurs, il a réussi une chose, réunir un public de toutes les couleurs de peau sur son plateau, y faire venir chaque jour des téléspectateurs en fauteuil roulant, jouer naturellement avec les mots en français et en arabe, lui d'origine juive tunisienne, lui qui dit joyeusement tout le mélange qu'est devenu la France d'aujourd'hui et que la télé rechigne à montrer. D'ailleurs, la première émission de la saison avait démarré comme ça.
Je suis français.
Je vous en parlais vendredi matin. Eh bien, dans la journée, les syndicats de journalistes du groupe Lagardère, c'est-à-dire Europe 1, Paris Match, Elle, le JDD, ont réagi. Comment Jean-Pierre Elkabbach peut-il devenir le conseiller de Vincent Bolloré, en charge d'ITélé, tout en restant celui d'Arnaud Lagardère, alors que les deux groupes sont frontalement concurrents? À moins que Lagardère ne songe à abandonner Europe 1, par exemple, à Bolloré. Je cite encore, si Arnaud Lagardère voulait envoyer le signal à ses troupes, il ne s'y prendrait pas autrement, souligne les syndicats. Alors, durant la campagne des primaires, les candidats de la droite ont fait montre de leur autorité face aux journalistes, façon de symboliser la prise de pouvoir. Eh bien, durant les débats de la gauche, les candidats adoptent la posture inverse. Nous sommes avec vous. Benoît Hamon et les 178 postes sacrifiés à la Voix du Nord. Arnaud Montebourg, hier soir, face à Laurence Ferrari. Le débat étant retransmis par BFM TV, mais aussi ITélé.
Vous résistez toujours à la pression des puissants, monsieur Montebourg?
Votre chaîne, madame Ferrari, il y a même Montebourg, le propriétaire de votre
tenez toujours
chaîne
vos paroles
qui a, est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme.
Concernant la chaîne que vous évoquez, ITélé, elle est là, elle est bien là et je la représente ce soir, monsieur Montebourg.
Voilà une actualité servie sur le plateau. Sonia Chironi, Olivier Ravanello, vous qui êtes les anciens d'ITélé, entre autres. Réaction, Olivier Ravanello?
Écoutez, quand une rédaction tout entière a décidé à un moment donné de défendre les valeurs de toute une profession, et que, au fur et à mesure, des jours, des mois, des semaines, elle reçoit des marques de soutien en disant « ben voilà, ils avaient raison, c'est comme ça qu'il faut faire », on peut que l'accueillir et en être satisfait. Au fond, la question reste la même, c'est comment est-ce qu'on arrive à organiser les relations entre des actionnariats privés qui détiennent des médias et des rédactions. Et comment est-ce qu'on essaye de créer un sas d'étanchéité entre les deux? Ça a été le combat de la SDJ de ITélé.
La Société des journalistes.
Absolument.
Qui vous représentait.
Pour dire, et on s'en est ouvert aux députés et ça finit par être entendu. Aujourd'hui, c'est dans la loi.
La loi Bloche.
La loi Bloche. Il faut une charte. Il faut établir des règles du jeu. Et ensuite, on peut travailler. Mais si on n'a pas de règles du jeu et qu'à tout moment, l'actionnaire peut mettre le nez dans ce que fait la rédaction, ça peut pas marcher. C'est contre-productif parce que c'est pas ce que les gens attendent, c'est pas le cœur du business. Si vous allez aux États-Unis, vous entendrez toujours des propriétaires de groupes médiatiques vous dire deux choses. Un, mes journalistes sont les meilleurs et les plus indépendants. Et deux, je ne me mêle pas de ce qu'ils font. C'est pas toujours vrai. On sait bien qu'il y a des pressions. Mais c'est la norme. Et tant que dans notre pays, on n'aura pas intégré ça, que c'est une norme, un tabou auquel on ne touche pas, mais il y aura toujours des problèmes, des conflits, des tensions et des débats.
Sonia Khironi, iTélé est toujours là. Laurence Ferrari l'a dit.
Bien sûr.
Mm-hmm. C'est tout ce que ça vous a...
Oui, c'est tout ce que c'est tout ce que ça m'inspire. Ouais. Nous, on représente plus iTélé. On a quitté iTélé. C'est un choix qu'on a fait. On a pris nos responsabilités. On a pris notre liberté.
Ouais, et, notre clause de conscience, ça s'appelle.
Ouais, c'est ça. Et c'est notamment pour pas avoir à se retrouver dans ce genre de situation qu'on a fait ce choix-là.
Alors on y vient justement.
Merci à toutes les équipes d'iTélé sur le terrain, en régie, dans la rédaction, qui ont réalisé cette édition spéciale. Je suis ravi et honoré d'avoir pu avec elles vous informer, avec honnêteté, rigueur du moins, je l'espère. Je vous dis au revoir et à bientôt et bonne fin de soirée sur iTélé.
Voilà, c'était l'un des adieux, celui d'Antoine Genton, qui fut l'un des représentants du mouvement au titre de ce qu'on a appelé justement la SDJ, la Société des journalistes. Alors que deviennent les anciens, en tout cas une partie des anciens, Sonia Khironi, Olivier Ravanello, on vous écoute.
Et ce qu'on devient, c'est qu'on est toujours ensemble, ouais. Qu'on était une rédaction et qu'on l'est resté, et qu'on a continué à se voir et que très vite on s'est dit que c'était pas possible d'arrêter de travailler ensemble. Donc on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait créer un collectif, qu'on allait rester unis et que ça allait s'appeler les journalistes associés et que ces journalistes associés, en fonction du temps qu'ils ont, de leur liberté, de leur capacité, aller produire, proposer aux gens qui nous écoutent maintenant et puis à tous les autres, des contenus journalistiques, mais en se disant qu'aujourd'hui la priorité c'est d'être présent sur les réseaux. Parce qu'on l'a vu notamment avec l'élection de Trump, les réseaux deviennent un champ pour des prises de parole qui sont parfois assez désordonnées, qui peuvent être de la manipulation, qui peuvent être de la propagande, qui peuvent être de l'opinion.
Ça veut dire que vous ne montez pas un site d'info ?
Ça veut dire qu'on ne monte pas un site d'info à proprement dit, ça veut dire qu'on veut continuer à produire de l'information, qu'on va proposer de manière organisée, structurée, éditorialisée au sens propre du terme, c'est pas de l'opinion, on va faire de l'info, mais qu'on va proposer sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour aller à la rencontre de ces gens qui vont s'informer sur ces réseaux-là parce que les médias classiques ne les satisfont pas complètement, mais surtout pour proposer sur ces réseaux de l'info. Et de continuer à faire notre travail comme on le faisait avant, avec en plus la liberté que ça permet.
Eh ben, on va y venir justement, parce que ça pose d'autres problèmes de se confier, son sort et son avenir à Google, Facebook et consorts. Sonia Khironi, ça va s'appeler comment ce collectif de journalistes associés? Parce que même si c'est pas un site d'info, il faut quand même que ça ait un nom, il faut quand même que ça existe quelque part.
Ça va s'appeler Explicite.
Explicite en français. Avec un E à la fin.
Ouais.
Pourquoi explicite ?
Explicite, ça a le mérite d'être clair.
mais c'est exactement ça.
Oui, c'est exactement ça.
On va expliquer.
Oui.
On va essayer de décrypter l'information, une information sans ambiguïté.
Et... Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça sous-entend que quand même dans le traitement de l'information, il y aurait des choses implicites, il y aurait des choses cryptées puisque vous utilisez le terme de décryptage. Il y aurait des choses que seuls les initiés connaissent et pas le grand public, justement puisque vous voulez que tout soit dit, que rien ne soit ambigu, Olivier Ravanello.
C'est plus l'idée que, à force de travailler, il y a parfois certaines questions qu'on ne se repose plus parce qu'on pense que l'information est passée et qu'elle est connue.
Oui.
Et que, dans mon domaine par exemple, on continue régulièrement de me dire « Mais c'est quoi la différence entre les sunnites et les chiites ?» Papier que vous n'entendez plus parce que n'importe quel chroniqueur international se dit « C'est bon, je l'ai fait au moins 50
fois. »
Notre démarche, c'est de se remettre au service des gens pour leur dire « Voilà, on est là, on va se mettre à votre disposition pendant quelques mois. » Le temps que cette aventure peut-être aille plus loin, pour répondre à votre question. Et les réseaux nous le permettent, on va faire des lives interactifs, c'est-à-dire que pendant une heure, vous allez poser vos questions à un spécialiste d'économie, de politique, d'international, à des reporters qui seront sur le terrain et qui, après avoir vu des choses pendant une journée entière, seront là pour être en interaction avec les gens qui leur poseront des questions, parce qu'ils n'auront pas forcément compris tout ce qui s'est passé dans la journée, ou qu'ils n'auront pas eu toutes les informations. Et on va se mettre à leur disposition, parce que je crois que ce qui aujourd'hui alimente une rancœur, une défiance vis-à-vis des médias classiques, c'est que on n'arrive plus à entendre les questions qui nous sont posées. Et là où les réseaux sont fantastiques pour ça, et qu'il faut les utiliser pour ce qu'ils ont de bien, c'est qu'ils nous permettent de rétablir ce lien, et de se de refaire notre métier, pas en se posant les questions du microcosme parisien, pas en répondant à la petite phrase d'hier et en anticipant la petite phrase de demain, en se posant des questions sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à comprendre dans l'info et qui me servira demain, après-demain, dans deux mois,
Sonia
dans trois
Kéroni,
mois.
Sonia Kéroni, ça veut dire un plateau, un studio, vous allez représenter des journaux ou plus du tout, ça change de forme complètement.
Ah non, ça change de forme complètement. Complètement. Mm-hmm. On y va parce qu'on a envie d'essayer plein de trucs nouveaux.
Ouais, donc du texte, de l'image, de la vidéo, du reportage,
plus de plateau. On ne s'interdit rien du tout. Ouais. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le contenu et puis après, voilà, les formats, on va les imaginer. Tout est ouvert et... le plateau, principalement, bah, ça sera le terrain, quoi.
Ça sera le terrain.
Ça sera l'extérieur.
Vous commencez quand ?
On commence vendredi.
Vendredi ?
Oui.
Donc en pleine investiture de Trump, c'est ça ?
Et vous savez quoi ?
Et vous savez quoi ? Non, mais vous allez me le dire.
On y sera.
Vous y serez ?
Oui, on y sera.
Alors justement, ça c'est ma question. Avec quel argent vous y serez, Olivier Ravanello ?
Pour l'instant, avec le nôtre, oui. Avec nos petites économies. Oui. On essaye de limiter évidemment les dépenses. On explore toutes les nouvelles manières de faire la vidéo de qualité, faire l'image de qualité, avec des choses qui sont assez peu onéreuses. On va faire un crowdfunding, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens qui sont convaincus que cette démarche est nécessaire, au moins pendant 6 mois, de nous donner les moyens de payer des billets d'avion, de payer des hôtels, des missions, parce que nous n'allons pas nous payer, et nous sommes une cinquantaine à travailler bénévolement pendant les 6 mois qui viennent.
On est bien d'accord que vous êtes spécialiste des questions internationales, vous avez été correspondante Sonia Kéroni au Moyen-Orient, on est bien d'accord que tout ça coûte très très cher, qu'il faut de gros moyens, et que quand on veut couvrir la mort de Fidel Castro ou un attentat à Istanbul, il faut parfois aussi utiliser des images de l'AFP, de Reuters, de AP, ça aussi ça coûte très très cher.
Oui, mais il y a une grande différence, c'est que on veut essayer, et c'est une aventure et c'est une tentative, de faire la démonstration qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important dans le journalisme, oui, ce sont les journalistes. Et que si vous avez envie d'acheter une chaîne de télé, parce que ça vous passionne, ou vous y avez peut-être un intérêt, vous vous dites, ça coûte combien ? Il n'y a pas beaucoup de choses à acheter, ça vaut 100, 150 millions. Dans la démarche qui est la nôtre, c'est de faire exactement l'inverse. On prend tout ce qui va être obsolète dans 5 ou 10 ans, un plateau de télé, des vieilles caméras, des moyens de diffusion. Et tout ça, on s'en sert plus parce qu'on n'a plus besoin de s'en servir. On filme avec des téléphones, on diffuse avec de la 4G.
Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la valeur ajoutée d'une chaîne, c'est pas la chaîne, c'est pas sa marque. D'ailleurs, Bolloré l'a bien compris, puisque lui, il a acheté une chaîne et il bousille la marque et il télé disparaît au profit de CNews. Il achète un canal, il achète une fréquence. Ce que vous dites, c'est ce qui a de la valeur là-dedans, c'est les journalistes, c'est la chair, c'est ce qui faisait la chaîne.
Il y a eu, à un moment donné, c'était en novembre, on s'est retrouvés et on était tous ensemble sur le point de partir où certains étaient partis. Et puis on était dans un café, il faisait chaud, c'était l'heure de la cigarette, il était 11h. Si vous preniez un peu de recul, au coin de la rue, il y avait une rédaction entière. Il y avait 50 personnes avec des présentateurs, des reporters, des chroniqueurs, des spécialistes de la politique, de l'économie. Tout le monde était là, il y avait tout pour faire une chaîne. Et on s'est dit, tiens, il y aurait quelqu'un qui passe et qui dit... j'ai un peu d'argent si vous voulez, on continue l'aventure. C'était faisable parce qu'on était immédiatement opérationnel. Ce qu'on veut montrer dans les 6 mois qui viennent, c'est ce qu'on est capable de faire quand on est toujours ensemble et ce qui est possible de produire journalistiquement sur les réseaux à des coûts qui sont 10 fois moins importants qu'un investisseur qui veut acheter une télé.
Alors justement, les réseaux, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Il y a d'autres lois sur les réseaux qui ne sont pas ceux d'un actionnaire privé. Je vous propose d'écouter une vidéo postée par L'Express. Hein. L'Express, pas n'importe qui, L'Express, sur Facebook, samedi soir, la vidéo passionnante du rappeur Booba essayant de se faire un selfie avec un éléphant.
Dans l'écran, je le vois.
Là.
Je le vois pas dans l'écran.
Belek.
Ah ouais, je le vois.
Tu vois, c'est bon ?
Voilà, Sonia Kéroni, quand on remet l'information et le contenu qu'on produit entre les mains de Facebook, par exemple, on se soumet à plusieurs lois. La première, c'est celle de la censure. C'est-à-dire qu'on accepte de censurer des images d'enfants nus, même quand il s'agit d'une photo historique de la guerre du Vietnam et d'une fillette courant après un bombardement au napalm, ou qu'on accepte de censurer des poitrines de femmes alors qu'on parle de cancer du sein. Vous y avez pensé ?
À la censure ?
Oui. Eh ben non. Eh ben donc vous allez découvrir la façon dont YouTube et Facebook et Twitter régissent les images qui circulent sur les réseaux.
On aura plusieurs supports.
Oui.
Et ensuite,
ce qui sera sacrifié par l'un sera récupéré par l'autre.
Non, il y a des logiques de vases communicants.
Absolument.
C'est-à-dire que vous allez à la rencontre d'un public sur un support, qui peut être Facebook et Twitter, et vous respectez les règles de ce support. Mais vous avez d'autres supports qui peuvent être votre chaîne à vous, sur lequel ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas non plus être dans une logique où on va renverser les choses et en se disant, dans les médias traditionnels, on fait absolument ce qu'on veut, alors qu'on a un CSA quand même qui est extrêmement interventionniste, y compris sur des questions de temps de parole, parce que par exemple la question des temps de parole politiques, dans l'absolu, elle est très bien, mais au quotidien, quand vous avez à la gérer, c'est souvent un non-sens éditorial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, un parti politique qui fait l'actualité, mais on va, nous, dans les rédactions, dire ben, on va plus le traiter du tout parce qu'il faut rééquilibrer. Mmh. Et donc, on va aller voir des gens qui, sur le moment où on parle, n'ont rien à dire. Mais on va quand
donc
même
là,
leur
tendre
un micro.
Donc là, il y a des contraintes, mais vous gagnez d'autres formes de liberté.
Il y a toujours des contraintes,
alors,
évidemment.
Alors, pourquoi je vous ai passé Booba et l'éléphant? Parce qu'il y a une autre loi encore plus ravageuse que la première, c'est que qui dit exister sur Facebook dit engendrer un maximum de clics pour que l'algorithme vous fasse exister. Et il y a donc un piège. Il y a un piège qui consiste à poster des grosses âneries bien potaches, bien virales, pour pouvoir remonter.
Ça et s'appelle la course à l'audience pour d'autres médias.
Oui, oui.
Et on n'est pas obligé d'y aller.
On n'est pas obligé d'y aller. Alors comment on existe? Comment on existe dans la jungle et la concurrence féroce des réseaux sociaux pour que vos contenus émergent justement?
À terme, mais je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas un businessman et on n'a pas fait de business plan. On attend peut-être que des gens viennent nous en proposer et tout le monde gamberge aujourd'hui pour savoir comment en effet être rentable sur les réseaux. Peut-être que la logique, elle est plutôt dans l'abonnement. Elle est plutôt dans l'appli que vous achèterez et où vous direz, ben voilà, je veux avoir le contenu d'Explicite parce que ben, ça me correspond et que je suis abonné au Monde, à Explicite, à l'Express et que le contenu que je vais acheter, c'est évidemment pas la vidéo de Booba. C'est pas ça qu'on va faire, nous, ça nous intéresse pas. On n'apprend rien avec cette
vidéo.
Vous
êtes prêt à accueillir un investisseur au-delà du crowdfunding, c'est-à-dire de l'appel aux dons que vous allez lancer au grand public? Vous êtes prêt à être racheté, entre guillemets, Olivier Ravanello, Sonia Khironi?
C'est le seul moyen d'être viable, mais la première chose dont tu nous parleras, c'est une charte.
C'est une charte.
Et si on ne la signe pas, il ne rentrera pas.
C'est alors, nous qui posons les conditions maintenant.
C'est nous qui posons les conditions. Voilà, une rédaction qui continue à vivre sans son média. C'est plutôt inédit dans l'histoire du journalisme français. Ça s'appelle Explicite JA comme journaliste associé sur Facebook. @explicitejA comme journaliste associé sur Twitter. Olivier Ravanello.
Je parle beaucoup. Les comptes sont en train d'être ouverts
là,
maintenant. C'est le cadeau qu'on fait aux auditeurs d'Inter. Vous allez sur Twitter, sur Facebook et vous serez les premiers à voir l'ouverture du compte Explicite JA sur Twitter et sur Facebook, c'est maintenant.
Et conférence de presse à 14h30 tout à l'heure, on vous en dira
pour en savoir plus. Merci à tous les deux, c'est la fin de l'instant même. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Une émission consacrée à l'écoute médicale. Votre médecin généraliste vous écoute-t-il suffisamment? Avez-vous l'impression d'être écouté à l'hôpital? 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com.
C'est ça. À défaut d'être écouté par son médecin, on peut être écouté par Ali Rebéi et je pense que les gens auront beaucoup beaucoup de choses à vous dire.